Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans On the Verge, le podcast de la sexualité masculine. Dans ce dernier épisode bonus, ayant pour thème « Ils ont fait de la sexualité leur métier », je vous propose de rencontrer l'incroyable et unique Jamal Phoenix. Jamal va vous raconter comment il a commencé sa vie de prostituée et eux en Australie à 21 ans, puis est devenu performeur X et escorte gay après sa transition de genre. Il vous propose une vision très décomplexée et épanouie du sexe et comment il a fait de sa sexualité et de ses fantasmes son œuvre et son métier. Une très belle rencontre avec cet être d'une grande sagesse et gentillesse que je vous propose pour clôturer les bonus de cet été avant la saison 4 du podcast On the Verge. Merci pour votre fidélité. On se retrouve le 9 septembre. Bonne écoute. Salut Jamal.
Salut Anne-Laure.
Ça va ?
Ça va très bien,
merci.
Je suis
hyper contente qu'on se voit. On a réussi à trouver ce créneau. Tu vis à Berlin. On est en début d'été, donc c'est vraiment cool que tu aies pris le temps sur ton petit passage parisien pour enregistrer, donc je te remercie.
Ah, je suis super contente de te rencontrer.
C'est cool, et on remercie Axel Abyss de nous avoir mis en relation. Jamal, je vais te laisser te présenter. Ce que je peux dire, c'est que tu es performeur dans le X, escorte, et que tu vis aujourd'hui de ton travail dans la sexualité et le sexe depuis quelques années, mais c'est toi qui vas te présenter et tu dis ce que tu veux. Vas-y.
Alors oui, voilà, je m'appelle Jamal Phoenix, je suis français, j'ai grandi en France, d'origine Guadeloupe et Réunion. J'ai 32 ans et j'habite à Berlin depuis quelques années. Mm-hmm. C'est d'ailleurs à Berlin que j'ai commencé ma carrière dans le X. Ma carrière d'escorte, par contre, elle a commencé il y a bien bien longtemps, donc j'avais 21 ans, je pense, donc c'était, bon, il y a une dizaine d'années,
hier.
En Australie, voilà, hier, oui, d'ailleurs, voilà, donc en Australie, mm-hmm. Et je suis aussi danseur, pole dancer.
Oui, j'ai vu ça sur Instagram, c'est impressionnant, ouais.
C'est très chouette, la pole dance, c'est vraiment...
C'est très physique.
C'est très physique, effectivement. Ouais, hein. Ça dépend du type de pole dance que tu fais. Mmh. Mais si tu fais la pole dance plus acrobatique, entre guillemets, ouais, c'est physique.
Ouais, ça a l'air d'avoir de belles conditions physiques. donc, tu es cette personne qui a effectivement tous ses pans dans sa vie professionnelle et personnelle, parce que j'imagine que, comme tous les gens passionnés, et surtout quand tu as ces jobs-là et qui ont une vocation artistique, tu m'expliquais aussi que tu écris, que tu as réalisé un docu-fiction. Enfin, voilà, tu es un artiste complet. Et ton... On va dire que le secteur qui t'inspire, c'est le sexe.
Ah oui, totalement. Ouais.
tu me disais que quand tu es allée en Australie, un peu comme ça, dans ta jeune vingtaine fringante, tu n'y allais pas forcément pour travailler dans le sexe.
Pas du
comment,
tout.
Comment ça s'est offert à toi ?
Non, j'y allais pas du tout pour travailler dans le sexe. J'y avais même pas du tout pensé, mm-hmm. À vrai dire. J'y suis allée un peu... Bon, j'ai eu un passé assez tumultueux qui a fait que je me suis retrouvée en Australie, à l'autre bout du monde. C'était un peu une décision un peu sur un coup de tête. Et non, j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait réaliser que c'était possible, comme je te disais, d'être sex worker sans pour autant que ce soit ce qu'on voit dans les médias habituellement, donc le trafic humain et tout. Mm-hmm. Et donc c'était des personnes qui étaient... on faisait partie du même milieu queer et j'avais jamais pensé que des personnes queer pouvaient aussi être sex workers. C'est bizarre. Hein.
Ah oui, d'accord.
J'avais pas du tout fait ce rapprochement-là. Et du coup, d'avoir des personnes qui étaient queer et qui faisaient du sex work, je sais pas, ça m'a ouvert quelques portes mentales. Mm-hmm. Et je me suis dit, mais c'est vrai que j'ai ce fantasme d'être sex worker depuis que je suis ado. Mm-hmm. Donc je vais me lancer, là, c'est le moment. L'Australie, c'est un pays où le sex work est légal.
C'est ce que tu me disais, il y a des maisons, donc c'est un peu comme les maisons closes.
C'est des maisons closes,
c'est ça ?
Ouais,
okay.
C'est des maisons closes. Après, on n'a pas forcément de... Comment dire ? C'est assez libre, c'est-à-dire que t'es pas rattaché à une seule maison.
D'accord.
Tu peux vraiment aller de maison en maison. T'as pas de pimp, quoi. T'as pas de Mac.
Tu fais des résidences à droite à gauche, quoi.
Exactement. Donc il y avait pas mal de personnes. Donc là où je travaillais, donc c'était à l'époque où j'étais femme. Il y avait pas mal de femmes qui venaient d'autres États d'Australie.
On le précise maintenant, tu es un homme trans.
Oui, voilà, je suis un homme trans. Et du coup, à l'époque, je me présentais en tant que femme. Mm-hmm. Et voilà, il y avait quelques personnes qui venaient pour travailler pour une semaine ou parfois un mois et qui repartaient ailleurs. Mmh. Voilà, moi j'essayais de rester plutôt dans les maisons dans lesquelles je me faisais du fric déjà et dans lesquelles je me sentais bien aussi. Je me suis fait plein d'amis, c'était vraiment une chouette époque.
Ouais. Donc t'es resté combien de temps en Australie à peu près?
Pas très longtemps, hein, juste 3 ans. Enfin ouais, deux ans et demi. Après je suis revenue en France, puis j'y suis retournée. Et j'ai commencé à travailler dans les maisons après ma première année là-bas.
Ok. Donc toujours en tant que femme?
Oui, oui, oui. Là, okay. À l'époque, je ne me questionnais pas encore du tout sur les questions de genre, mm-hmm. et tout. Enfin, si, j'étais au courant, mais je me questionnais pas par rapport à moi-même.
D'accord.
Et j'ai commencé à me questionner sur mon genre, d'ailleurs, après avoir commencé à travailler dans une maison. Tout est venu un peu en même temps.
Et comment ça s'est passé quand tu t'es mis à travailler dans ces maisons? C'est-à-dire que tu es indépendant? Tu as une clientèle, c'est toi qui gères. Enfin, comment tu arrives à en faire un métier?
Comment ça se passe? C'est que donc tu as des horaires de travail. Tu peux choisir le shift du matin, de la journée, de la nuit. Quand tu es une personne qui est nouvelle dans la maison, tu dois te tenir un peu à ta routine. Mm-hmm. Aussi parce que le but de la maison, c'est que tu leur rapportes de l'argent aussi.
Bien sûr.
Il faut que tu sois présent. Il faut que tu bosses, quoi. Mm-hmm. Mais donc il y a un prix qui est fixe. Donc une partie va pour la maison, une partie va pour
une commission,
voilà. Mais une fois que tu es dans la chambre, par contre, tout ce qui se passe dans la chambre, s'il y a des choses extra, tout l'argent est pour toi.
D'accord.
Voilà. Okay. Donc c'est comme ça que ça se passait.
Et tu as réussi toi à avoir des clients réguliers là-bas?
Eh ben non, il y avait pas. Si, j'avais un client qui était pas forcément régulier de moi, mais qui était juste régulier de la maison.
D'accord.
Il venait plusieurs fois par semaine. Il voulait essayer toutes les filles.
Ah, okay.
Il était super gentil. Lui, il faisait la discussion. Il nous payait des verres. Il voulait juste se faire masser. Il était vraiment gentil.
C'était quelqu'un qui avait besoin de compagnie plus qu'autre chose.
C'est ça. Mm-hmm. C'était vraiment un chouette type. Mais sinon, non, j'avais pas vraiment de clients réguliers. C'était surtout des. Il y avait pas mal de gars de passage, quoi.
Ok.
Ouais.
Et t'apprends des choses sur ta sexualité à ce moment-là, en tant que femme?
J'ai appris, j'ai eu pas mal d'orgasmes avec mes clients, mine de rien, que des orgasmes que j'avais pas avec des partenaires intimes. J'ai surtout appris à prendre le temps, on va dire, parce que là c'était assez drôle. Je prenais le temps avec les clients parce qu'il faut faire passer le temps.
Bien sûr, t'es payé.
Voilà, le but c'est d'essayer de vraiment prendre le plus de temps possible pour qu'il reste le plus longtemps possible. Mais d'une certaine manière, ça m'a permis aussi à me rendre compte qu'il fallait que je prenne mon temps avec mon partenaire et aussi avec moi-même. Tu vois, on n'est pas obligé d'aller super vite dans la sexualité. Et il y avait des clients qui ne voulaient pas du tout baiser. Hein. Ils voulaient juste faire des câlins. Donc ça m'a appris pas mal de choses sur l'intimité aussi, mine de rien.
Ouais, c'est pas qu'un mythe. C'est ces hommes qui ont besoin de tendresse juste à un moment.
Ah, c'est pas du tout un mythe. Mon premier client, c'était un petit chouchou qui venait de se faire larguer. Et ses potes, après quelques mois de dépression, lui ont dit « Mais va te taper une pute, quoi. » En gros, genre, c'est bon, il faut que tu te sortes les doigts du cul.
Ça, c'est international.
Et ça tombe bien, moi, j'étais contente, du coup, je suis perdue dans les pensées. Parce que c'était mon premier.
Oui.
Et j'avais super peur. J'étais... Et donc, j'ai eu de la chance, quoi, de tomber sur quelqu'un qui avait sans doute aussi peur que moi. Et bon, après, évidemment, il est tombé tout de suite amoureux. Il voulait me sortir de mon enfer. Même des dîners, je lui dis, bébé, le mythe de la pute qui est en enfer, ça aussi, il faut le déconstruire, tu vois. Donc, j'utilisais aussi ce travail pour déconstruire l'idée du travail sexuel dans la tête de mes clients.
Oui, oui, que c'était pas imposé, que tu étais libre de tes choix et que tu étais heureuse à ce moment-là.
Ouais.
Heureux. C'est vrai que oui.
Ouais.
dans ce choix-là. Ok. Ouais. Donc, tu poursuis ton métier de prostituée à ce moment-là dans les maisons. Et à quel moment tu vas commencer à penser à aller un peu plus loin dans justement l'acting porno?
Tout est venu un peu en même temps, je dois dire.
Parce que c'est vraiment deux métiers différents, quoi.
C'est deux métiers différents, effectivement. Mais le porno, j'y pensais depuis bien avant, pour le coup. Et je savais pas comment me lancer.
Ok.
Je savais pas qui approcher, je savais pas... Je pense que je suis quelqu'un d'assez timide aussi, donc j'osais pas trop écrire pour dire, bah voilà, je sais pas, vous cherchez un acteur, une actrice. Et ça a commencé peut-être 2 ans après, je crois. Je sais plus. Et c'était... j'avais vu une annonce en ligne sur le site d'une personne qui s'appelle Courtney Trouble, qui est une performeuse et aussi productrice de porno aux États-Unis, queer du coup. Et elle avait mis un appel sur son site en disant qu'elle cherchait des personnes aux quatre coins du monde pour faire des vidéos et que c'était rémunéré et qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, qu'on pouvait faire des solos ou pas des solos. Et du coup, je me suis dit, allez, lance-toi, fais une vidéo.
Donc là, tu lui envoies une genre de candidature ?
Bah, du coup, d'abord, alors, je ne sais plus, je lui avais envoyé un mail, et j'ai dû lui envoyer des photos, je crois, pour qu'elle voit un peu qui j'étais. Et non, il n'y avait même pas de candidature. Elle m'a juste dit, bah, écoute-moi, envoie-moi ta vidéo. Mon but, c'est vraiment de recenser le maximum de sexualités différentes en termes de porno sur mon site. Il n'y a pas de script. Tu fais vraiment ce que tu veux, quoi.
OK. Mmh. Donc, tu envoies ça et c'est comme ça que tu... Alors, à ce moment-là, tu es encore une femme ?
Ouais. Enfin, je me présentais comme telle, mais je commençais déjà à utiliser...
ton pronom.
Les deux pronoms. OK. Ouais, mon cheminement en tant que personne trans a été assez long. Ça a pris quasiment 10 ans, je crois.
Tu envoies ta vidéo à cette productrice. Et alors, à ce moment-là, comment ça se passe pour toi ? C'est assez clair dans ta tête ? Tu veux continuer à faire de la prostitution ? Tu veux devenir acteur X ? Comment tu te positionnes ?
Alors, à ce moment-là, j'étais plus en Australie déjà. Mmh. Et j'avais envie de continuer le porno, mais... Comme je te disais, je savais vraiment pas
par quel bout prendre ça.
C'est ça, je savais pas où me tourner, je savais pas quoi faire. Donc, d'ailleurs, quand je suis rentrée en France, ma carrière de prostitution s'est un peu arrêtée aussi parce que du coup,
c'est moins légal, c'est plus compliqué, c'est.
Il y a des maisons ici, mais voilà, c'est pas la même manière pour y entrer. C'est quand même beaucoup plus underground.
Puis je pense qu'il faut un vrai réseau quand tu commences, etc. Ouais.
Et je ne me voyais pas lancer mon site. Du coup, j'ai mis un peu le haut là. Mais après, ce que j'avais commencé en Australie, par contre, ce n'était pas vraiment du porno. C'était plus du travail érotique, on va dire. Il y a une compagnie avec laquelle j'ai travaillé là-bas. Et ils font des vidéos et des photos, mais c'est vraiment juste érotique. Tu vois, il n'y a pas forcément de sexe. C'est juste de la nudité. Ou
sexy.
Voilà, sexy, sensuel, etc. Et en faisant ce travail avec cette compagnie-là, je me suis dit, mais moi, j'ai vraiment envie d'explorer la sphère sexuelle, mais ce n'est pas le but avec cette compagnie. Mais du coup, ça me permet déjà aussi de commencer à être à l'aise avec mon corps et commencer à explorer aussi comment j'ai envie de me montrer, quel est mon rapport avec la caméra, etc. Donc, c'était un peu des débuts assez timides dans l'exploration de ma sexualité.
Oui, donc tu l'as fait crescendo quand même.
Ouais, j'ai fait crescendo. Et sinon, j'ai commencé le porn vraiment, vraiment quand j'étais à Berlin, du coup. C'est là que je me suis lancée pour de vrai.
C'est plus facile ?
Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'être à Berlin qui était plus simple ou si c'est juste parce que j'avais 10 ans de plus.
Peut-être un peu des deux.
Un peu des deux, ouais. Et que du coup, j'avais des connexions et beaucoup plus à l'aise avec ma sexualité, pour le coup. Et j'avais déjà plein de fantasmes que j'avais envie d'explorer à l'écran. Et... Ouais, je pense... C'est un mix des deux et j'ai rencontré des gens et c'est comme ça que ma carrière s'est lancée.
Et donc aujourd'hui, quel type de porno tu fais ? Parce qu'effectivement, on parle beaucoup du porno, tu vois, pour l'hétéro, cis, blanc, avec la domination masculine, comme on le disait juste avant, avec tu vois, des sexes immenses, où les nanas sont complètement tu vois, en totale soumission, etc. On le souhaite, est un porno qui va commencer un peu à disparaître. De plus en plus, il y a du porno éthique, il y a du porno queer, il y a des représentations de corps et de genres différentes. Qu'est-ce que toi, tu proposes comme acting ?
Alors moi, j'ai commencé dans le porno queer et j'ai fait quelques pornos avec donc deux personnes qui sont devenues mes amies et donc qui sont mes producteurs, dont un porno que j'ai écrit, qui est donc le docu-porn dont je te parlais tout à l'heure, qui continue de tourner. 2 ans après, mm-hmm. ça, on gagne des prix, les gens m'envoient des mails.
Ouais, je mettrai toutes les infos dans la barre qui accompagnera cet épisode.
Ouais. Je m'attendais pas du tout à ce que ce porno fasse autant de bruit, mais je suis content, ouais. Que ça touche des gens, parce que c'est quand même une histoire très personnelle. À la base, c'était vraiment juste, comment dire, une sorte de rituel pour moi, pour passer à autre chose dans ma vie.
Ok, je comprends.
Mais là, le porn dans lequel je suis maintenant, c'est vraiment du porn gay et fétiche. Mm-hmm.
Tes partenaires sont des hommes?
Mes partenaires sont des hommes, ouais. Donc, je fais du porno gay, plutôt mainstream d'ailleurs. J'aime beaucoup ça. Et du porno aussi fétiche.
Quel fétiche?
Bah écoute, ça dépend de moi et de mes partenaires. D'accord. Mais j'ai tourné pour Axel, donc
ah, okay.
Donc il y a eu du fist, voilà, évidemment.
Évidemment.
j'explore mes fétiches aussi là-dedans.
Qu'est-ce que t'apporte ce métier?
Waouh, plein de choses. Ça m'apporte. Déjà, ça me permet d'être créatif. Mmh. Ça me permet d'explorer, comme je disais, ma sexualité, mes fantasmes, je rencontre des personnes vraiment vraiment chouettes. Mmh. Je rencontre des gens géniaux. Ça me permet de travailler avec des personnes que j'admire aussi, dont j'admire le travail, et ça me donne, je sais pas, la confiance en moi. Ça m'apaise aussi, parce que mmh. du coup, je me réalise dans ce que je fais.
C'est vrai que t'as vraiment une aura hyper apaisante. Non, mais c'est vrai, t'es hyper cool, zen. En fait, qu'on a fait tu fais de la méditation, quoi. T'as un truc de prof de yoga.
J'en fais aussi.
Mais on dirait un prof de yoga, tu sais. Alors, les gens te voient pas, et je pense qu'ils auront la curiosité d'aller voir. C'est vrai que t'es tatouée partout.
Pas partout, mais ça vient, ouais.
Il reste plus grand chose de ce que je vois.
Là, on voit les bras, effectivement. Ouais, ils sont
même le visage, même le...
Bah, mes tatouages au visage, les premiers, c'est moi qui me les suis fait seul, du coup. Donc, ouais.
Bon, ça va, c'est plutôt... Et donc tu évolues comme ça. Alors, tu nous as donné les avantages, mais quels sont les freins que tu pourrais... Parce que tous les métiers, il y a des choses qu'on adore, il y a des choses qu'on aime moins.
Ouais.
Qu'est-ce qui est un peu difficile dans ces métiers?
Ce qui est difficile dans le métier, dans ce métier, c'est que déjà quand t'es un mec trans dans le porno gay mainstream, il y en a de plus en plus. On est de plus en plus nombreux, mais c'est encore assez. Comment dire?
N'est pas hyper représenté.
On est en train de créer notre représentation, justement. Okay. Là, il y en a vraiment de plus en plus, et justement avec l'explosion de Twitter et des sites comme OnlyFans, Just for Fans, etc., ça permet justement à des acteurs qui sont amateurs de proposer leur propre porno aussi et de créer leur propre visibilité sans être obligé de passer par des producteurs.
Donc une vraie diversité de plus en plus.
De plus en plus, qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Et moi, je me souviens, les premiers pornos que j'ai vus avec des personnes trans, c'était donc il y a 10 ans. Et il y en avait 2, 3, et ils étaient tous aux États-Unis, bien sûr. Mm-hmm. Donc là, c'est encore le cas. La plupart des acteurs porno FTM sont aux États-Unis. Mais ça se diversifie de plus en plus, il y en a de plus en plus. Je ne dirais pas que c'est difficile de se faire une place, parce que ta place, tu te la crées, hein, j'ai envie de te dire. Mais c'est moins facile que les mecs cis, quoi. On va avoir moins d'opportunités que les mecs cis, ou alors on va être cantonné à des rôles assez clichés. Mais pour le moment, moi, j'ai pas ce genre de problème, parce que je choisis vraiment les personnes avec qui je travaille. Je ne travaille qu'avec des personnes qui m'intéressent, ou que des personnes qui m'attirent, ou comme je disais tout à l'heure, dont j'admire le travail.
Donc les rencontres sont intéressantes, quoi, et enrichissantes.
Je travaille pas avec des personnes. Pour le moment, j'ai pas encore fait de porno où j'avais pas envie de le faire. Pas vraiment envie de le faire, tu vois.
Ok, je comprends.
Ouais.
Et tu disais que tu continuais encore l'escorting.
Oui.
Et donc ça, tu arrives à le faire aussi en Allemagne, mais aussi en France.
Oui.
Ok. Ouais.
Donc quand je viens en France, j'ai des clients réguliers, ou alors j'ai des nouveaux clients. Pareil en Allemagne.
Et tu arrives aujourd'hui à vivre de ces... parce que tu fais vraiment partie de ces gens qui, de leur sexualité, de leur fantasme, de leur libido, parce que j'imagine qu'il faut avoir aussi une libido qui
tient la route.
T'en as fait vraiment ton chemin de vie et aussi tes revenus. Cet alignement-là, c'est ce que tu te souhaitais?
Je suis encore en train de travailler là-dessus. Hein. Je ne me sens pas encore totalement en paix.
Ouais.
Mais c'est un travail de toute une vie, j'ai l'impression.
Bien sûr.
Mais par contre, je sais que je suis dans la bonne direction.
Mmh.
Parce que plus les années passent, plus je me sens vraiment en alignement, comme tu dis.
Mmh.
Ouais, j'espère continuer sur cette lancée, en fait, parce que pour le moment, j'ai vraiment que du fun. Je m'amuse, ça me fait du bien. Je rencontre des gens géniaux et... Je sais pas, j'ai un peu l'impression d'être un privilégié, mais en même temps, c'est énormément de travail. Du coup,
j'imagine.
Je me dis que c'est pas juste un privilège, quoi. C'est vraiment juste...
Et puis de l'organisation, de la connaissance de soi.
Ouais.
C'est justement, quelles sont tes aspirations si on a cette discussion dans 5-10 ans, est-ce que tu as envie de te tourner plus vers de la production? Est-ce que tu as des chemins qui se dessinent pour toi?
La production, j'y pense un petit peu, effectivement. Mais pour le moment, j'ai vraiment envie de me réaliser en tant que performeur. J'ai envie de continuer. J'adore être devant la caméra. Je suis un petit peu exhib aussi. Donc ça. Et j'ai tellement, tellement, tellement de fantasmes que j'ai envie d'explorer. Je me demande si un jour, je les aurais tous faits à la caméra. Et ouais, j'ai l'impression... La production, ça te permet... Bah, justement, comme je disais, avec les sites comme OnlyFans et Just For Fun, ça permet aussi de... Ça crée une sorte de balle d'équilibre.
Parce que
du coup, là, c'est moi qui produis mes propres vidéos, c'est moi qui les filme.
Oui, tu proposes ton propre contenu, donc t'es moins limité.
Ouais. Je dirais pas que je suis... C'est pas une question de limitation, c'est différent. C'est juste que c'est seulement... C'est moi qui gère tout. Après, j'ai pas les moyens...
C'est ce que j'allais dire, les productions sont un peu plus à la maison, quoi.
Voilà, c'est ça, c'est vraiment des trucs amateurs, donc j'ai pas du tout la prétention de dire que je suis producteur, pas du tout.
Bien sûr. C'est la création de contenu, en tout cas.
Ouais,
okay. Et puis, j'imagine qu'il alimente aussi tes fans et les gens qui te suivent. Parce que... Alors, j'ai vu que sur Instagram, t'es pas très copain avec Instagram.
Non, Instagram, même pas.
Ouais, j'ai l'impression que...
Ouais, je viens de me faire supprimer encore.
Ouais, j'ai vu ça.
C'est fatigant.
Donc, je mettrai évidemment aussi tes comptes. Donc, t'existes sur Instagram un nouveau compte, là.
Mm-hmm.
Et t'es sur d'autres plateformes?
Oui, donc je suis sur Twitter et je suis sur OnlyFans et JustForFans, etc. Mais justement, ça, c'est un des freins aussi dans mon métier parce qu'on dépend un peu des social media pour faire notre promotion. À moins de se faire son propre site, mais c'est quand même beaucoup de boulot.
Oui, et puis il faut amener les gens.
Il faut amener les gens vers le site.
Il n'y a pas l'algo qui te permet de... Ouais,
non.
Donc c'est autre chose. Ouais.
C'est ça, donc on est même obligé d'utiliser Instagram pour faire la promotion de son site.
Ouais, bien sûr.
Donc c'est ça qui est assez frustrant, c'est que c'est encore ultra, ultra tabou, le travail du sexe, le porno, et on dépend de ces...
Réseaux sociaux.
Réseaux sociaux, merci, je t'en prie. De ces réseaux sociaux pour se faire connaître. Et... Ouais, c'est frustrant, quoi, de se faire supprimer. Il y a toujours... C'est bien parce qu'on voit aussi les fans qui sont vraiment fans et qui reviennent automatiquement.
Oui, mais t'as un rapport direct avec eux, c'est sympa aussi,
c'est ça. Ouais. Mais voilà, c'est beaucoup de boulot, c'est...
Et socialement, quand tu rencontres les gens, tu le dis que tu es acteur porno?
Alors, je ne le dis pas de but en blanc comme ça.
Évidemment. Mais je sais pas comment c'est en Allemagne, mais c'est vrai qu'en France, c'est souvent dans les deux, trois premières questions qu'on se pose quand on ne se connaît pas.
Ouais.
Ah, machin, tu fais
quoi
tu
dans
vis
la
où
vie
et tu fais quoi dans
ouais.
la vie tu ouais. vois, donc, est-ce que tu réponds? Est-ce que tu bottes en touche? Est-ce que tu... Comment tu te positionnes?
Maintenant, ça dépend de dans quel cadre je suis. Ça dépend de la personne que j'ai en face de moi. Si c'est un parfait inconnu, j'ai rarement envie de
parler.
Tu vois, quelqu'un qui va me saouler, je vais pas lui dire parce que du coup, ça va donner lieu à des questions. Voilà.
Bien sûr.
Mais si j'ai une vraie conversation avec quelqu'un, qu'on est dans un véritable échange, je vais le dire. Moi, j'ai aucun problème à dire que je suis. Je dis même que je suis pute, tu vois. Ça, j'utilise des termes qui dérangent un peu. Que je suis pute et acteur porno, quoi.
Ok.
Mais je le dis pas dans un souci de provocation, mais vraiment parce que je suis fière de ce que je fais et que... Ouais, et d'une certaine manière, j'ai l'impression que ça lève aussi un peu le tabou sur... ce que les gens... L'idée que les gens se font des travailleurs sexuels et des acteurs porno, quoi.
Et maintenant que, justement, tu travailles avec des hommes et que tes partenaires sont des hommes, c'est quoi aujourd'hui, en 10 ans, ta photographie de la sexualité masculine? Est-ce que tu sens une évolution entre tes clients d'Australie quand tu étais une femme et aujourd'hui? Ce que tu peux faire sur OnlyFans?
Là, il y a une évolution, c'est clair. Bah déjà, ma présentation de genre, elle a changé. Mon orientation sexuelle a évolué. Je pense que j'ai fait tous les coming out possibles.
Tu étais une femme hétéro ?
J'ai été une femme hétéro, bien sûr. Voilà, j'ai été une femme bisexuelle. Après, j'ai été une femme lesbienne.
Ok.
Vraiment, genre, hardcore lesbienne. puis j'ai été juste une personne queer. J'utilisais le terme queer pour définir et mon genre et ma sexualité. Parce que voilà, il y avait vraiment un peu de tout, quoi. Et après, ça a évolué. Après, j'ai été un point d'interrogation. Mm-hmm. Vraiment, quand là, j'ai entamé vraiment ma transition médicale, là, ça a été un gros point d'interrogation. Je ne savais plus du tout. Et là, maintenant, c'est assez clair. C'est assez récent, hein, mine de rien. C'est pas si longtemps que ça. En fait, c'est aussi parce qu'à un moment donné, j'en ai marre de faire des coming out, tu vois. Et après,
c'est vrai que
après
tous les deux ans, ça commence à...
Bah voilà, donc je faisais mon coming out en tant que personne trans et je me suis dit, c'est bon, ça va être le dernier coming out. Puis bah non, en fait, je suis pédée, quoi. Genre, il y en a encore un derrière. Et du coup, je pense que ça me fatiguait un peu.
Il les aura toutes faites.
Hein. Bah voilà, c'est... Ouais.
C'est pas mal, là. Dans ce que tu dis, en tout cas, t'as l'air d'être plutôt bien dans ce que tu es aujourd'hui.
Bah oui, parce que du coup, de réaliser ce qu'on est, de l'accepter et d'aller au bout, ça fait du bien, en fait.
Oui, et puis en même temps, tous ces coming out et tous ces passages étaient aussi peut-être sûrement nécessaires. Totalement. À être la personne. Et je trouve d'ailleurs que ton nom est joliment trouvé, Jamal Phoenix. Je trouve ça chouette, tu vois. Le phoenix qui renaît de ses cendres.
C'est pour ça.
Et je trouve ça génial, parce que c'est-à-dire que tu t'es réinventé au fur et à mesure des années. Ouais. Pour aujourd'hui, voilà, être bien. Mais en tout cas, c'est pas mal, t'as trouvé ta voix, quoi.
Ouais, bah c'est chouette que t'aies relevé ça, parce que c'est exactement pour ça que j'ai choisi Phoenix.
Bah écoute, c'était réussi en tout cas. Qu'est-ce que tu voudrais dire pour conclure cet entretien, Jamal ? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux auditeurs et auditrices sur comment vivre leur sexualité, explorer leurs fantasmes, parce que tu vas au cœur des fantasmes. Quels seraient quelques conseils que tu puisses partager avec eux ?
Bah justement, de jamais cesser d'explorer. Mmh. J'ai envie de dire, il faut pas avoir peur d'explorer, parce que c'est comme ça qu'on s'amuse. Il faut pas hésiter à aller chercher au fond de soi ce qui nous fait vibrer et de l'explorer seul, à plusieurs, à deux, à trois. Ouais, moi, comme je disais, je m'amuse vraiment dans ce que je fais. Ça me fait vraiment du bien de voir aussi, parce qu'il y a une dimension hyper spirituelle aussi, c'est que ça me permet de... je vais le dire encore, mais de m'aligner aussi avec ce que je suis. Et je vois que ça touche des gens, ça touche beaucoup de personnes. Il y a une dimension politique aussi, parce que du coup, en tant que personne FTM et aussi noire, il n'y a pas beaucoup de personnes comme moi dans mon milieu, dans le porno gay, je veux dire. Donc, pour moi, c'est aussi une manière de créer une visibilité qui est encore assez timide. On est vraiment très, 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 très peu. On se compte sur les doigts de la main, quoi. Et de me dire aussi, bah voilà, ce que je fais, ça permet aussi de créer de la visibilité pour d'autres mecs trans qui vont se dire, bah moi aussi j'ai envie de voir des mecs trans PD noirs dans le porno. Et voilà, quoi. Donc c'est aussi pour ça que j'ai vraiment décidé de me lancer à fond. Donc c'était un choix. C'est parce que c'est ce qui me plaît de faire du porno, mais il y a aussi cette dimension qui est de vraiment créer cette visibilité-là qui n'existe pas.
Et laisser une vraie trace de ton travail, quoi.
Ouais. C'est ça.
Super. Bah, merci infiniment.
Avec grand plaisir.
Merci infiniment à Jamal d'avoir répondu par la positive à cette invitation. C'était vraiment un plaisir que de le rencontrer. J'espère que voilà, vous avez vous aussi bien apprécié cette rencontre, cet homme et cette âme vraiment particulière. Merci encore pour votre fidélité sur cet été, sur ces bonus. J'espère vraiment en tout cas que ça vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à créer ces formats un peu plus courts et aussi à aller un peu sur ce terrain-là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, un témoignage dans On the Verge. À très vite.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project,
there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.